Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
Allez, le cri du cœur.
RMC, le cri du cœur.
Du Super Moscato Show.
On continue donc de parler de Roger Federer et de son incroyable carrière avec Marc Rosset, champion olympique en 92, vainqueur de Roland-Garros en double, ancien capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, qui a vu débarquer et éclore le phénomène en tant qu'ami et compatriote. Bonjour Marc.
Bonjour.
Salut Marc. On est tous un peu tristes de la retraite de Roger. Tu dois l'être particulièrement.
C'est un peu mitigé. Je suis triste parce que voilà, c'est un immense sportif qui met fin à sa carrière. Mais au niveau humain, je suis assez content pour lui parce qu'il va découvrir d'autres choses. Il va pouvoir consacrer un peu plus de temps à sa famille, avoir une vie un peu plus normale. Donc, je suis triste pour l'aspect sportif et assez heureux pour l'être humain.
Alors évidemment, tu l'as accompagné toute sa carrière. Une question très classique qu'on pose souvent à propos de ce genre de phénomène. La première fois que tu le vois jouer, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu pouvais imaginer la suite?
La première fois que je l'ai vu jouer, il s'entraînait au centre national à 60 km de Genève. Je l'ai fait venir pour s'entraîner avec moi la journée. Il devait avoir 16-17 ans. Et le moins qu'on puisse dire, que il était détendu le garçon. Donc ça m'a fait rire parce que aucune pression, assez relâché. Et puis après, il est venu 2-3 fois en Coupe Davis comme sparring partner. Puis voilà, j'ai vu un petit peu grandir, mais on pouvait pas imaginer que ça allait devenir ce champion-là. Forcément, il y avait du talent, mais après, derrière le talent, il y a beaucoup de travail aussi. Donc, la route était encore longue.
Alors, on dit souvent que techniquement, c'est presque le joueur parfait. À quel moment de sa carrière il a atteint sa plénitude, selon toi?
Un des matchs que j'ai le plus aimé, honnêtement, parce que c'était après un comeback, c'est la fois où il bat Rafael Nadal en Australie, là, après sa première blessure. Il avait un niveau de jeu qui était assez incroyable. Le fait qu'il revienne de blessure, ça a rajouté. Mais je veux dire, c'est dur de mettre vraiment des matchs comme ça, d'en sortir un ou deux, parce qu'il nous a habitués à faire des coups assez incroyables, à réinventer le tennis quand il a commencé à faire ses retours, là, sabre, où il était à un mètre derrière une de service pour surprendre l'adversaire. Donc c'est systématiquement, il a réussi à réinventer le tennis ces dernières années.
Vincent.
C'était un gros bosseur physiquement. Il a été chercher très loin des préparateurs physiques. Il a innové
parce que je veux dire, on se rend pas compte. C'est clair que si on voit Rafael Nadal ou Novak Djokovic, on regarde leur façon de jouer et puis on se dit forcément il y a du boulot derrière tout ça. Roger, il y a une telle facilité, un tel relâchement qu'on a l'impression que il prend la raquette et que tout paraît facile et qu'on peut faire la même chose. Mais pour avoir partagé le même préparateur physique que Roger, Pierre Paganini, il y a beaucoup de boulot derrière. Il a été très très peu blessé durant sa vie. Alors bien sûr, il y a eu cette blessure au genou qu'il n'a pas réussi à soigner. Mais autrement, je veux dire, c'est un joueur qui a été constamment là, qui a été très peu blessé, qui a joué énormément de... C'est 24 ans de carrière, 1500 matchs sur le circuit, quoi. Je veux dire,
c'est une carrière excellente. Tu le sentais à la fin qu'il était... Qui tirait vraiment sur la couenne, qu'il pouvait pas passer cette blessure, que c'était fini, tu le sentais depuis un moment?
Il a essayé l'année passée, je veux dire, il est venu au tournoi de Genève, il a joué Roland-Garros, ça s'est pas super bien passé, et il a joué pratiquement sur une jambe, il a retenté une opération. À 41 ans, honnêtement, une opération du genou, ça prend de toute façon une année, donc... On s'y attendait tous. J'aurais espéré que physiquement ça marche et qu'il puisse faire encore une saison régulière l'année prochaine pour juste avoir le plaisir de le voir encore jouer dans les 4 tournois du Grand Chelem. Mais disons que on parlait de peut-être jouer 12 mois au tennis supplémentaire. Mais de toute façon, à 41 ans, on savait que ça allait être compliqué.
Et alors justement, Marc, est-ce que tu sais si à cet âge-là, avec ce problème de genou, il s'est autant accroché uniquement par amour du tennis ou parce que il y avait ce record à aller chercher, ce record de nombre de Grand Chelem et qu'il a vu dépasser par
Non, je crois pas que c'est une histoire de grand chelem. Je crois que c'est l'amour du jeu et parce que là, il y a aussi des sportifs sur le plateau. Je veux dire, on a tous vécu le moment où il faut raccrocher. C'est pas un moment facile. Il y a jamais une belle sortie. Il y a jamais c'est toujours compliqué de se dire bon bah j'arrête, c'est fini, parce que c'est une passion. Je veux dire, c'est une passion qui vous prend au trip. Vous avez 7-8 ans, vous faites
c'est ta vie.
30 ans, c'est notre vie, quoi. Je veux dire, il reste pas compétiteur dans l'âme. On reste tous sportifs dans l'âme quand on l'a été une fois, et de se dire bah voilà, c'est fini, je peux plus. C'est jamais agréable. Je veux dire, il y a pas une belle sortie. C'est toujours n'importe quel sportif qui a vécu ça, il vous dira c'est une petite mort. Après, il faut l'accepter, il faut retrouver d'autres défis, mais c'est jamais simple.
Marc, tu l'as entraîné en Coupe Davis, tu étais son entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Roger Federer quand on est entraîneur de Coupe Davis?
Faut avoir juste un bon jeu à jouer sur son smartphone, et puis le laisser jouer. Le changement de côté, il me dit, bon, t'as vu, quand je fais ça, il fait ça, puis après je mets la balle comme ça, il me la fait comme ça, puis là, il faut avoir l'air sérieux, puisque peut-être vous passez à la télé.
C'est bon.
Et vous dire, ouais, j'ai vu pour pas passer pour un idiot.
Tu fais vous laissez jouer,
puis vous dites, ouais, c'est bon, t'as raison, ouais, je l'ai vu, ouais, t'as raison.
Et à la fin, tu dis, t'as bien fait de m'écouter.
Mais t'as entendu, tu fais les gros yeux, quoi, pour montrer que hein, tu fais les gros yeux de temps en temps, de manière de le gronder, tu vois.
Ouais, comme ça. Pour faire semblant que vous méritez le salaire de la télé, quoi.
Merci beaucoup, Marc.
Merci, Marc. Merci,
merci à vous.
Merci. Marc Rosset, donc ciao, ancien ciao. Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis. Retour au basket. France-Pologne, les Bleus ont passé la seconde, là, Arnaud Valadon et Steve Brun.
7 minutes 38 encore à jouer avant la mi-temps. 20-9 pour les Bleus qui n'encaissent pas un panier, Stephen. On dit souvent l'adage, dans le basket et dans les sports co, la défense fait gagner des titres. Un petit peu le cas, en tout cas, les Bleus s'en sortent.
Hein. Ouais, défense exceptionnelle. On laisse pas leurs joueurs extérieurs qui peuvent prendre feu à 3 points. On les contient bien, on est bon au rebond. Et surtout, les rotations apportent. Moustapha Fall a fait un très, très bon passage. Le garçon de 2m16, Rudy Gobert, le fait souffler. Et il vient de signer son entrée par un énorme dunk. 22-9 pour les Français.